Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et à regarder dans Ésaïe 44. Nous allons continuer dans ce chapitre que nous avons débuté la dernière fois à partir du verset 24. Mais je voudrais continuer la lecture et l'étude jusqu'au chapitre 45 et le verset 7 parce que ça fait un ensemble. Donc, mon texte, Ésaïe 44, à partir du verset 24, et ça continue au chapitre 45 jusqu'au verset 7. Et nous allons contempler dans ce message le règne souverain de Dieu. Quand on dit un Dieu qui règne, il s'agit d'un Dieu qui est souverain. Et chaque fois que nous voyons dans la Bible des mots comme ici dans le verset 24, « Ainsi parle l'Éternel », cela signifie que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il n'est pas simplement en train de donner son avis, mais il est en train de faire une déclaration à laquelle nous devons maintenant écouter et faire attention. Donc ici, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins et je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai les fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Et puis nous continuons la lecture dans Ésaïe 45, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses en foule, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc ça commence dans Isaïe 44 et le verset 24 avec ces mots: ainsi parle l'Éternel. L'Éternel fait ici des déclarations remarquables à travers tout ce passage et dans les versets suivants. Il déclare qu'il est leur rédempteur. Il parle ici du reste en Israël, en Juda, qu'il devait préserver, ayant déjà prononcé des jugements qui devaient venir quelques centaines d'années plus tard avec Babylone, qui devait prendre la ville de Jérusalem et détruire le temple, emmener le peuple en captivité, mais Dieu les rappelle qu'il préserverait un reste. C'est pourquoi il dit qu'il est leur rédempteur dans le verset 24. Le créateur de chaque personne, c'est-à-dire qu'il a formé dès l'utérus, qui n'est pas simplement le roi de son peuple, mais il règne sur tout peuple, sur toute sa création. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses, comme c'est écrit dans le verset 24. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Il n'y a rien qui existe que Dieu n'a pas fait. Plus sage et plus grand que quiconque. Il dit ici, seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Il n'y avait personne là pour lui donner des conseils. Et donc, cela devait fermer la bouche à ceux qui prétendaient avoir du contrôle de leur vie ou bien pouvaient en quelque sorte diriger leur vie en dehors de ce Dieu souverain et qui soutient les siens et qui ressuscite les villes mortes, ayant dit à Jérusalem, tu seras habité. Bien sûr, ça devait être ruiné pendant 70 ans de captivité, mais maintenant, Dieu prédit ce qu'il va faire avec Jérusalem. Ce n'est pas parce que Jérusalem avait quelque chose de bon en elle-même, mais c'est parce que Dieu a promis préserver cette ville jusqu'à la venue de son fils. Et après cela, la ville devait être détruite encore une dernière fois dans l'année 70 du premier siècle. Mais c'est Dieu qui fait tout cela. C'est lui qui a l'autorité sur toute sa création et qui dit, comme il dit à l'abîme dans le verset 27, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. C'est Dieu qui fait cela pour sa gloire. Alors, qui dit de Cyrus, nous continuons dans le verset 28, Dieu prouve ici qu'il est bien celui qui non seulement suscite ceux qui doivent accomplir sa volonté, mais ici, il est en train d'annoncer par nom, par son nom, Cyrus était un roi qui est venu vaincre les Babyloniens à la fin des 70 ans de captivité. Mais Ésaïe écrit cela plus de 200 ans avant même que Cyrus n'accomplisse cette prophétie. Ça, c'est remarquable. Mais ça nous prouve encore que c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est le Dieu de l'histoire. Alors, voilà ce qui prouve que cette parole que nous étudions est véritablement la parole de Dieu. Ici, celui que Dieu devait susciter pour aller vaincre les Babyloniens et puis après donner le décret que Israël devait retourner dans le pays et rebâtir la ville de Jérusalem, comme c'est décrit dans le livre d'Ezra et aussi de Néhémie. Tout cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait prononcé, mais ici, lorsqu'Ésaïe est en train de prophétiser, c'est encore 200 ans avant le fait. Mais Dieu appelle Cyrus ici dans le verset 28, son berger. C'est écrit, il est mon berger. Cyrus était un berger dans le sens où Dieu l'a utilisé pour faire quelque chose de bon et utile pour son peuple. En fait, c'est Dieu qui est le véritable berger de son peuple, mais il utilise les moyens parmi les hommes pour accomplir sa volonté à propos de son peuple. Ici, Juda, ou le peuple d'Israël à ce temps-là, lorsque Israël ou Juda devait être en captivité, était comme des brebis perdues. Mais Dieu devait les rassembler et les renvoyer dans leur véritable bercail en Juda, par un étranger. Cyrus ne connaissait pas Dieu, mais Dieu s'est servi de lui pour accomplir sa volonté. Souvent, dans la Bible, les rois sont appelés les bergers, ou bien des gardiens de leur peuple. Ici, le titre signifie que le conquérant, c'est-à-dire Cyrus, qui devait venir, devait servir de gardien désigné par Dieu et de conduire encore le peuple de Juda dans leur propre pâturage. Notons, quoique Cyrus était un roi étranger, néanmoins, c'est écrit ici dans le verset 28, il accomplira, notons, ça ne dit pas une partie de ma volonté, mais toute ma volonté. Cela doit nous réconforter aujourd'hui de savoir qu'il y a bien des gens qui président sur les nations, les pays, mais c'est Dieu qui les a placés là. Il n'y a aucun pouvoir qui existe que Dieu lui-même n'a pas placé là pour sa gloire. Et ici, l'ordre que Cyrus devait accomplir, c'est que Jérusalem devait être rebâtie. Vous voyez ça dans le verset 28. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé une fois de nouveau. Pourquoi? Parce que quelques 500 ans plus tard, Christ lui-même devait entrer dans cette ville, entrer dans ce temple et accomplir tout ce que le temple représentait en tant qu'image de son œuvre, les sacrifices, les sacrificateurs. Mais une fois accompli, maintenant, la ville et la nation, le temple, devait maintenant être mis de côté. Et c'est ça qui s'est passé. Dans l'année 70, une fois que Christ a accompli son œuvre, maintenant, Jérusalem était encore détruite pour toujours. Et le temple existe encore aujourd'hui en ruine. Jamais d'être rebâti, parce que c'est Christ qui est le temple de Dieu. Et c'est par lui que nous approchons de Dieu, par son sacrifice. Alors, les proclamations royales de Cyrus qui ont accompli cette prophétie se trouvent, par exemple, dans Ezra chapitre 1. Si vous voulez regarder là avec moi, peut-être nous ne sommes pas habitués à parcourir ces livres des prophètes, mais c'est une bonne chose de nous familiariser ici dans Ezra chapitre 1. Notons, c'est écrit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Ésaïe a précédé Jérémie. Il a annoncé ce qui devait arriver quelques 200 ans avant le fait, Mais Jérémie a vécu à ce temps-là, lorsque Jérusalem a été détruite et le temple. Et donc, lui aussi, dans son livre, surtout dans Jérémie chapitre 25 et les versets qui suivent, Jérémie avait prophétisé que ce roi Cyrus devait être suscité. Mais maintenant, Esdras, après les 70 ans, est retourné en Israël encore pour rétablir la loi et préparer la fondation du temple. Et c'est écrit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Alors voici un roi étranger, un roi païen, sur qui Dieu avait placé son esprit pour qu'il annonce et qu'il prononce exactement ce que Dieu lui avait donné de déclarer. Et ici même, quand c'est écrit dans le verset 27, « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, soyez au sec. » Je crois que le travail spécifique commandé par Cyrus est décrit en détail, y compris l'assèchement des eaux et la pose des fondations du temple. Quand il a dit « Soyez au sec » ou bien « Dessèche-toi », cela devait mettre dans le cœur de Cyrus d'assécher l'Euphrate, c'était le grand fleuve en Babylone. Et ainsi, ils ont traversé pour prendre Babylone au départ. Donc, cette prophétie a été accomplie pour que Cyrus puisse vaincre la ville et la nation de Babylone et puis ensuite faire sa proclamation. Quand c'est écrit qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé, c'est ainsi que Dieu a agi à travers les décrets de Cyrus. Il ne prononçait pas ces choses de lui-même, mais c'était selon ce que Dieu lui avait donné. Cela doit nous encourager que rien ne peut se passer si ce n'est Dieu lui-même qui l'ordonne. Et si quelque chose se passe, c'est parce que Dieu l'avait ordonné. Maintenant, nous continuons dans le chapitre 45 du verset 1 à 7. Et c'est pourquoi je voudrais lire cette partie et continuer à étudier. Vous savez, les divisions dans les chapitres sont là placées par les éditeurs. Mais dans l'original, il n'y avait pas de cette division. Ces divisions ont été placées là pour nous faciliter à nous retrouver dans la lecture. Comme maintenant, quand je dis Ésaïe 45, le verset 1, c'est afin que nous puissions nous retrouver ensemble. Mais ici, dans Ésaïe 45, et du verset 1 à 3, nous avons encore plus de précisions concernant l'appel et la mission de Dieu pour Cyrus. Et encore cette phrase, « Ainsi parle l'Éternel ». Cela nous démontre sa souveraineté. Mais c'est dit encore, ici dans le verset 28, il a appelé le berger de l'Éternel. Ici, dans le verset 1, il est appelé son oint. Typiquement, cela a été réservé pour ceux qui étaient des prophètes ou bien des rois qui représentaient le royaume d'Israël. Mais ici, en appelant Cyrus son oint, il s'agit d'un roi étranger. Donc, Ésaïe poursuit cette remarquable prophétie du chapitre précédent. Et dans ce document, Dieu annonce encore par son nom le libérateur de son peuple d'une captivité à venir. Encore, je vous rappelle que cela devait se faire 200 ans. Cette prophétie a été annoncée 200 ans avant même la naissance de Cyrus. Pourtant, Dieu l'appelle par son nom et décrit qu'il devait être le loin de Dieu. Être le loin de Dieu signifie que Cyrus avait alors une onction particulière de Dieu pour son travail. Cela ne veut pas dire qu'il était loin de l'esprit dans le sens qu'il s'est converti, non. Mais ici, le loin de Dieu, dans le sens d'accomplir exactement comme Dieu l'avait ordonné à faire. Dieu a déversé son esprit sur ce roi païen, et c'est ainsi que Dieu l'a utilisé pour bénir et délivrer son peuple Israël. Je crois bien que même s'il y a dans le monde des présidents, des rois, mais Dieu préserve souvent ses rois pour le bien de son peuple. Et c'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2, nous sommes exhortés avant toute chose, Paul dit, 1 Timothée 2, et le verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et là, dans le sens là, c'est pour tout genre d'hommes, riches ou pauvres, ceux qui sont rois et ceux qui sont des simples serviteurs, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, notons, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alors pourquoi nous devons prier même pour ceux qui sont dans des positions d'autorité, quoiqu'ils ne sont pas des croyants? C'est afin que Dieu agisse à travers ceux-là pour accomplir sa volonté, comme c'était le cas ici avec Cyrus. Et il existait pour une seule raison. Il a pu conquérir la nation de Babylone pour une seule raison. Ce n'était pas parce qu'il était en lui-même plus puissant ou qu'il avait plus de sagesse que Babylone, non, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a oint pour qu'il puisse accomplir cela, afin que le peuple d'Israël ou bien de Juda soit libéré. C'est ça, dans le verset 1 de Ésaïe 45, Dieu dit qu'il tient par la main. C'est une manière de parler, mais on tient souvent par la main un petit enfant. Donc c'est une expression pour montrer que c'est Dieu qui est le véritable roi ici. Et que Cyrus n'est que comme un enfant qu'il tient par la main pour diriger, afin de terrasser les nations devant lui. Et Cyrus était cet instrument de Dieu, quoi qu'il avait, quand on lit dans l'histoire, il avait une carrière militaire remarquable. Mais lisant ceci, nous savons qu'il a pu faire ce qu'il a fait en tant que roi, simplement parce que c'était Dieu qui lui donnait ce pouvoir. Et une fois que Dieu a fini avec un roi, l'ayant élevé dans sa position d'autorité, c'est Dieu aussi qui l'abaisse. Ce n'est pas l'homme qui doit rester dans sa place si Dieu ne l'a pas placé là. Nous savons que Cyrus, quand on lit l'histoire, dans les anneaux de l'histoire, Cyrus a soumis les Syriens, les Assyriens, les Arabes, les Cappadociens, les Phrygiens, les Lydiens, les Cariens, les Phéniciens, les Babyloniens, les Bactriens, les Indiens, les Siliciens, les Sassiens, les Paphlogoniens, les Maranandins et bien d'autres nations. Je trouve difficile même de prononcer quelques-unes de ces nations, mais c'est pour dire qu'il a conquis le monde qui existait à l'époque. Et il avait aussi une domination sur les Asiatiques, les Grecs, les Cypriens et les Égyptiens. Il a vaincu quelques pays qu'il a envahis. Alors, c'était le roi des Perses. Aujourd'hui, les Perses représentent les Iraniens, la nation d'Iran. Babylone était du pays d'Irak, ce que nous connaissons comme Irak. Mais à l'époque, c'était véritablement un empire mondial. Et donc, c'était en octobre, à peu près dans l'année 539 avant Christ, que Cyrus a avancé dans la basse Mésopotamie et il a quitté Babylone pour la fin. Il a conquis et il a occupé le territoire environnant. Une fois établi sa base en Babylone, alors c'est Dieu encore qui le dirigeait pour qu'il conquis ses nations. Et donc, nous pouvons voir tout cela encore, comme je disais, dans Esdras, mais aussi dans 2 Chroniques, le chapitre 36. Mais quel était le but de l'appel, de la mission de Dieu pour Cyrus? C'est ainsi que nous voyons du verset 4 jusqu'au verset 7. C'était, dans verset 4, premièrement, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Dieu s'est servi de Cyrus pour libérer ce reste de Juda par son amour pour Jacob, son serviteur. Qu'est-ce qu'il y avait en Jacob? Il y avait cette postérité qui devait être suscitée et de laquelle maintenant Dieu, le Fils, devait venir et accomplir son œuvre de salut pour tous ses élus. Non seulement les élus en Israël, mais pour les élus de partout dans le monde. Alors, peut-être que Cyrus aimerait penser que Dieu l'avait choisi pour le bénir lui-même en tant qu'homme le plus intelligent, ou bien le plus talentueux, ou bien le plus fort disponible. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu s'est servi de Cyrus. Ce n'était pas Cyrus qui a poussé Dieu à agir, mais c'était l'état de son peuple. Dieu, voyant l'état misérable de Juda, et le temps étant accompli, a suscité Cyrus, comme Dieu le dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Et ce qui est dit ici de cette postérité, ce reste est vrai aussi de tous les élus que Dieu a choisis bien avant la fondation du monde, toute langue, toute tribu. Ils sont élus de Dieu par son amour et appelés par son nom. Et ainsi, Dieu a ordonné sa bienveillance à ses élus, bien avant que les élus ne sachent qui il est en tant que Dieu. Tel est le cas de Cyrus, mais tel est le cas de chacun de nous pécheurs choisis par Dieu, afin que nous puissions le connaître. C'est Dieu qui a fait le choix, mais c'est à cause de son amour et à cause de sa grâce. C'est ce que nous lisons particulièrement dans le Nouveau Testament. C'est dans son amour qu'il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Donc Cyrus se sert maintenant d'un exemple Cyrus se sert maintenant d'un exemple de ce que Dieu daigne utiliser pour sa gloire, comme tout habitant de la terre. C'est Dieu qui règne et il est souverain en tout ce qu'il fait. C'est ainsi que Dieu continue dans le verset 5 à dire « Je suis l'Éternel ». S'il n'y a pas d'autre leçon à apprendre dans cela, c'est de savoir que c'est Dieu qui est l'Éternel. Le mot éternel veut dire qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Et il dit, il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Rappelons-nous que la raison pour laquelle Dieu devait emmener la tribu de Judas en captivité, c'est parce que Judas s'est éloigné, tombé dans l'apostasie en suivant d'autres dieux, petits dieux. Et Dieu maintenant les rappelle que non, hors moi, il n'y a point de Dieu. Et c'est un rappel ici aussi que c'est Dieu qui saint. Il a soutenu Cyrus avant même que Cyrus ne le connaissait. Mais c'était afin que même Cyrus sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant, du soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Voici le message que nous avons annoncé à un monde éloigné et à un monde perdu, qu'il y a un Dieu qui règne. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu conduira en jugement devant sa présence tout être humain. Et si quelqu'un n'a pas eu sa dette payée par le Seigneur Jésus-Christ que Dieu a suscité, donc de telles personnes subira certainement son jugement. Ça, c'est quel Dieu qui sauve qu'il veut, mais aussi qui condamne qu'il veut. Et c'est pourquoi, pour terminer dans le verset 7, un verset clé que nous avons à souligner, où Dieu dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Beaucoup croient que, oui, c'est Dieu qui fait de bonnes choses et manifeste sa lumière, mais c'est le diable ou bien les hommes pécheurs maintenant qui créent les ténèbres. Mais que dit Dieu lui-même? Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Notons, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Et le mot dans l'hébreu pour l'adversité, c'est le mal. Ce que l'homme appelle le mal, quand Dieu envoie une tempête et il détruit beaucoup, ou bien il suscite une armée pour aller faire la guerre, comme Cyrus a fait contre les Babyloniens, c'est Dieu qui fait tout cela. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de morts, ou bien que ce soit une maladie, un virus envoyé, les gens disent, oh, mais c'est le diable qui règne, non? Un seul Dieu règne, même le diable est le serviteur de Dieu pour accomplir tout ce qu'il a ordonné. Je donne la prospérité, il dit, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Si tel n'est pas le Dieu que vous adorez, donc vous ne connaissez pas Dieu. Il dit, je fais la paix, je crée la calamité. Moi, le Seigneur, le sens du mot éternel, je fais toutes ces choses. En termes simples, Isaïe savait que Cyrus saurait et déclarerait au monde entier. Et nous devons savoir aujourd'hui le même, que Dieu est celui non seulement qui est au contrôle, les gens aiment utiliser ce terme, non, Il n'est pas simplement au contrôle, mais il ordonne chaque détail afin que rien ne se passe que Dieu ne l'avait pas déjà ordonné. Il t'a donné que cette prophétie a été donnée bien avant que le peuple d'Israël n'ait entré en captivité, au moment où Isaïe annonçait cette prophétie. Il y avait encore une centaine d'années qui devaient écouler. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de faux prédicateurs. Quand les choses ne sont pas arrivées immédiatement, ces faux prédicateurs calmaient les gens en disant que non, il suffit que nous continuions comme nous sommes et tout ira bien. Mais Dieu avait déjà prononcé ses jugements, même si ces jugements ne sont pas arrivés immédiatement. Tout ce que nous savons, c'est que tout ce que Dieu ordonne viendra en son temps et sera accompli exactement comme Dieu l'avait ordonné. Le point d'Isaïe ici est qu'il n'y a pas deux dieux qui existent, ou bien des forces dans le ciel qui se combattent, un qui est bon et puis l'autre qui est mauvais. Voilà comment les gens raisonnent. Quand tout va bien, on dit que oui, Dieu a amené la bataille, mais quand le mal arrive, on dit « Oh, c'est le diable ». Et donc, il y a toujours ce conflit que les gens aperçoivent entre le bien et le mal, mais tel n'est pas le cas. Comme nous voyons ici, Cyrus était un Persan et les Perses avaient une conception dualiste de Dieu et du monde, exactement comme d'autres pensent aujourd'hui. Ils appelaient leur Dieu bon. Il avait un nom, Ahura Mazda. Et le Dieu maléfique, ils appelaient Angra Magna. C'était des noms en perse. Et le premier avait créé la lumière, le second, les ténèbres. Mais voilà pourquoi Dieu insiste, même ici, que non. Cela n'est pas un conflit entre un Dieu qui est bon et un autre qui est mauvais. Aujourd'hui, les gens ont un Dieu qu'ils appellent bon, qui est amour, mais ils disent que c'est Satan qui s'oppose. Et souvent, dans ce conflit, selon eux, Satan gagne. Et c'est Dieu qui doit maintenant revenir là-dessus pour regagner le terrain. Non, Dieu ordonne toutes choses. Et même le mal, que les gens appellent mal, est selon le dessein de Dieu. Et peut-être le meilleur exemple de cela, c'est ce que Dieu a ordonné concernant son Fils. Lorsqu'il a mis son Fils sur la croix, Pierre l'avait bien expliqué le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, si vous regardez là. Et dans le verset 23, notons, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. » La préscience de Dieu, c'est la manière que Dieu sait d'avance ce qu'il a ordonné. Ça ne signifie pas sa préscience en voyant ce que les hommes allaient faire, et puis maintenant, ils devaient agir. Non. La préscience de Dieu, c'est sa connaissance avant de ce que lui-même, il a ordonné. Et c'est écrit que Christ était alors délivré entre les mains des impies, selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Et vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, on ne peut pas contester avec Dieu et demander pourquoi ceci ou pourquoi cela. Non, c'est lui qui règne. Et si Dieu pouvait faire avancer son dessein éternel en ordonnant à ce que son fils devait mourir d'une mort méchante et injuste sur la croix, alors il sait comment utiliser ce qui est selon son dessein aussi dans le monde entier et les actions des gens. C'est de cette manière qu'il règne en tant que Dieu souverain. Alors, nous allons arrêter là dans notre étude et reprendre ça la prochaine fois, mais que le Seigneur bénisse cette parole pour sa seule gloire. Amen.